www.rfi.fr.
RFI, 7h30 à Paris, 6h30 en temps universel.
Le journal Nemo en Peace.
Bonjour Julien, et 8h30 à Goma, capitale du Nord Kivu, province de l'Est de la RDC, où se sont poursuivis hier les combats entre armées congolaises appuyées par ses alliés au groupe armé du M23 soutenu par le Rwanda. Deux fronts sont ouverts à Sake et à Kibumba, non loin de la grande ville. Hier, une réunion du Conseil supérieur de la défense s'est tenue à Kinshasa autour de Félix Tshisekedi. Nous serons également à la frontière rwandaise où, vous l'entendrez, le commerce continue malgré les incertitudes liées à la situation sécuritaire. À suivre dans ce journal également cet accord de partenariat stratégique entre Mogadiscio et le Caire pour lutter contre la menace terroriste en Somalie. Et puis la culture Sao Kotoko, l'une des plus anciennes civilisations africaines à l'honneur en ce moment. À Yaoundé, un festival lui est consacré. Le Cameroun, où ils sont nombreux à suivre les performances de Pascal Siakam, star NBA des Pacers d'Indiana, qui voudront prendre leur revanche ce soir à Paris pour le deuxième match délocalisé de la semaine face aux Spurs de Victor Wembanyama. La suite hier des affrontements entre l'armée congolaise et ses alliés opposés au groupe armé M23 soutenu par le Rwanda. Des combats sur deux fronts situés non loin de Goma, la capitale provinciale du Nord Kivu. L'un à Sake, à une vingtaine de kilomètres à l'ouest. L'autre à Kibumba, au nord de la grande ville. C'est dans ce contexte que Félix Tshisekedi a réuni le Conseil supérieur de la défense. Les principaux responsables sécuritaires du pays étaient présents et la mort du gouverneur militaire de la province a notamment été évoqué. À Kinshasa, la correspondance de Passion Ligodi.
Premier point abordé, les circonstances entourant la mort du gouverneur militaire du Nord Kivu, le général-major Peter Tshirimwami. Le président Tshisekedi a rendu hommage à cet officier qui sera élevé à titre posthume au grade de lieutenant-général. Des obsèques nationales seront également organisées. Autre sujet au cœur des discussions, l'efficacité des services de renseignement et le risque d'une infiltration ennemie dans Goma. Sur le terrain, l'urgence est de repousser l'avancée du M23, appuyée par l'armée rwandaise, et de reconquérir les zones perdu, explique des sources militaires. Cela sera, selon elle, la seule façon de venger la mort du gouverneur. Le chef de l'État a aussi donné des instructions pour renforcer les troupes en matériel et améliorer leurs conditions de travail afin de maintenir le moral des soldats. Une attention particulière sera portée à la protection des Goma. La capitale du Nord Kivu est actuellement menacée par deux lignes de front à l'ouest et au nord, à 20 km de la ville. Enfin, le chef de l'État a décidé l'envoi imminent d'une mission de haut niveau au Nord Kivu. Des réunions opérationnelles sont également prévues dans la province pour coordonner et améliorer les efforts militaires. Patient Ligodi, Kinshasa, RFI.
Kinshasa qui a demandé une réunion d'urgence du Conseil de sécurité. Elle sera organisée lundi à New York, au siège des Nations Unies. On évoquait le front à l'ouest de Goma, à Sake. Partons à l'est à présent, à une quinzaine de kilomètres, et de l'autre côté de la frontière au Rwanda, où cette forte tension a également des conséquences. Il y a Gisenyi, ville frontalière, puis Rubavu, où malgré les difficultés liées à l'incertitude de la situation sécuritaire, le commerce transfrontalier se poursuit. Reportage sur place signé Lucie Mouillot.
À côté de la petite barrière, les transporteurs s'activent pour charger leurs marchandises sur les chariots. Le marché est rempli malgré les détonations entendues jusqu'à Rubavu. Théoneste Atadje Kimana s'apprête à partir pour Goma.
Ce n'est pas pareil que d'habitude. On nous conseille, si on va à Goma, de revenir vite. Ce qu'on dit, on le respecte, à cause de l'incertitude sur la sécurité.
Plus loin dans la ville, même si la frontière reste ouverte, de nombreux camions attendent dans leur parking l'évolution de la situation sécuritaire. Jean de Dieu Isabayo, président de la coopérative des conducteurs transfrontaliers.
De notre côté, la situation est normale. Mais les clients en RDC qui attendent les camions et les propriétaires des véhicules ont peur des problèmes de sécurité.
À la grande barrière, des habitants de Goma préfèrent par précaution passer la nuit de l'autre côté de la frontière. Des entrées plus nombreuses que d'habitude, mais pas de mouvement de masse, explique le maire de Rubavu, Prosper Moulindoua.
Nous sommes prêts à recevoir les réfugiés si jamais ils arrivent. Nous allons observer la situation et prendre des décisions dépendamment de la situation qui s'améliore ou qui se détériore.
Dans un communiqué publié jeudi, la société civile de Goma a appelé la population à rester calme et à ne pas quitter la ville. Lucie Mouillot, de retour de Rubavu, RFI.
Et trois chancelleries occidentales, la France, le Royaume-Uni et les États-Unis appellent en revanche leurs ressortissants à quitter la capitale du Nord-Kivu. À l'heure où les déplacés sont de plus en plus nombreux sur les routes, pas moins de 400 000 en moins d'un mois dans l'est du pays, selon les Nations Unies. Et pour tenter de résoudre ce conflit, il y a plusieurs tentatives de médiation. L'un des acteurs les plus actifs, c'est le président angolais, João Lourenço, à l'origine du processus de Luanda. Actuellement au point mort, hier le chef de l'État a assuré que son pays continuerait de mettre à profit son expérience au service de la paix en Afrique et appelé Kigali et Kinshasa à revenir autour de la table des négociations après l'échec de la tripartite qui devait avoir lieu en décembre dernier. Autre acteur qui tente de plus en plus de se montrer sur le continent, Recep Tayyip Erdogan, le président turc qui propose ses services. Il l'a fait lors de la visite jeudi de son homologue rwandais Paul Kagame à Ankara. Une offre de bons offices qui illustre la stratégie de la Turquie sur le plan international. RFI Ankara, Anand Lauer.
L'offre de médiation turque entre le Rwanda et la RDC n'a rien de surprenant. Elle s'inscrit à la fois dans la politique qu'Ankara développe à l'égard de l'Afrique, mais aussi dans le cadre plus large de sa politique étrangère. En Afrique, peut-être plus qu'ailleurs, pour les dirigeants turcs, économie et diplomatie avancent main dans la main. Le volume des échanges avec le continent a dépassé les 35 milliards de dollars en 2023, contre à peine 5 milliards de décennies plus tôt. Ankara ne veut se mettre à dos aucun partenaire africain, ce qui implique de ne pas prendre parti dans les conflits, et apparaître non seulement comme une source de développement, mais aussi comme une puissance d'apaisement. Elle est intervenue récemment avec succès dans le différend entre l'Éthiopie et la Somalie. Dans la foulée, le président turc a proposé son aide pour apaiser les différends entre le Soudan et les Émirats arabes unis. À une autre échelle, Recep Tayyip Erdogan cite aussi souvent ses efforts de médiation entre la Russie et l'Ukraine, qui, s'ils n'ont pas abouti, ont été plus loin que ceux entrepris par d'autres. Entre le Rwanda et la RDC, la Turquie propose donc une forme d'expertise qui lui permet à minima d'entretenir son influence et qui, en cas de réussite, ne peut que favoriser ses intérêts sur le continent. Anand Lauer, Ankara, RFI.
Et la situation dans l'est de la République démocratique du Congo, on continue d'en parler toute la matinée sur RFI. Pauline Azidi sera en ligne de Kinshasa dans le prochain journal. Rendez-vous 7h, temps universel.
RFI.
Lutter contre le terrorisme en Somalie, c'est l'un des objectifs d'un accord de partenariat stratégique conclu jeudi entre l'Égypte et la Somalie, entente au niveau politique, économique, mais aussi et surtout militaire, alors que le président somalien Hassan Cheikh Mohamud était en visite au Caire, où l'on retrouve notre correspondant Alexandre Bouchanti.
Depuis le mois d'août, ce n'est pas moins de 3000 militaires égyptiens qui ont été envoyés en Somalie. Officiellement, ils participent à l'entraînement des forces somaliennes pour combattre le terrorisme et sécuriser le pays. L'Égypte a aussi fait 3 livraisons d'armes légères à la Somalie. À partir de cette année, les militaires égyptiens doivent être intégrés à la mission d'appui et de stabilisation de l'Union africaine en Somalie. Du Caire, le président Abdel Fattah el-Sissi a réitéré que la présence militaire égyptienne n'était dirigée contre personne. Rappelons toutefois que l'Égypte et l'Éthiopie, le grand voisin de la Somalie, sont en conflit sur les eaux du Nil suite à la construction d'un barrage par Addis Abeba. Un accord de coopération militaire a aussi été signé en octobre entre l'Égypte et l'Érythrée. Alexandre Bouchanti, Le Caire. RFI.
La Tunisie dans ce journal est Sonia Darmani. Souvenez-vous, cette avocate qui avait été arrêtée par des hommes en cagoulé au siège de l'ordre des avocats à Tunis en mai dernier. Une scène filmée par les caméras de nos confrères de France 24. Eh bien, sa peine d'emprisonnement a été confirmée en appel, bien que réduite de 2 ans à 1 an et demi. Sonia Darmani avait à plusieurs reprises dénoncé le traitement accordé aux migrants subsahariens ainsi que les atteintes à la liberté d'expression en Tunisie. Sur ce verdict, je vous propose d'écouter Atem Nafti, essayiste et opposant au régime de Kais Saied.
C'est des condamnations pour l'exemple et de fait, ça marche, parce que Sonia Darmani, avant d'être avocate, elle est surtout connue pour être une chroniqueuse et une journaliste. Il y a un avant et un après arrestation de Sonia Darmani et de ses collègues qui ont été arrêtés le même jour dans 3 affaires différentes. On a vu le recul net de la liberté d'expression dans les médias audiovisuels privés, les publics ayant déjà son... s'étant déjà transformé en caisse de résonance du pouvoir en place, mais clairement, on voit une grande différence entre l'avant et l'après-arrestation de Sonia Dlamini. Aujourd'hui, il y a très très peu de journalistes dans les médias audiovisuels qui continuent à porter une parole critique, même légèrement critique. Et donc, ces arrestations, ces condamnations sont autant de messages pour les journalistes, pour leur dire, et si vous critiquez le régime, si vous n'êtes pas, en tout cas, dans les petits papiers du régime, voilà ce que vous risquez.
Thème Nafti, essayiste tunisien, direction le Cameroun pour la fin de cette édition. Avant de parler sport, on parle culture à l'occasion de la 6e édition du Festival des Arts et Traditions Sao Kotoko qui se tient au Musée National à Yaoundé. Les Sao Kotoko, c'est deux civilisations ancestrales d'Afrique centrale dont les représentants sont venus du Nigeria, du Tchad ou encore du Ghana pour célébrer cet héritage commun. Immersion avec Richard Onanena.
Et pour la réception des visiteurs ordinaires, c'est
ça. Abakar fait la visite guidée d'une case traditionnelle Kotoko, une maison en terre cuite de forme circulaire dans laquelle on retrouve un lit incrusté, un coin cuisine et ses ustensiles d'argile, un grenier, mais pas que.
Ici, c'est les canaries d'eau. Quand c'est dans la cour, on y met de l'eau à boire.
Construite au village du festival, dans l'esplanade du musée national, la case Kotoko attire des centaines de curieux. Joël Ginkam est ravi de la découverte.
Et ça nous permet aussi de voir les outils et les instruments de la vie familiale dans un espace culturel comme celui-là.
Le son des trompettes traditionnelles et des tambours rythme les allées venues des sultans, les rois des communautés présents au village du festival. Dans les stands, on peut apercevoir des armes forgées, des pirogues de pêcheurs traditionnels, des produits de beauté et les coiffures qu'abordent les femmes Kotoko depuis des millénaires. C'est le premier regroupement des Kotoko depuis plus de 10 ans. Sa Majesté Marmataba II, sultan de Kousséri, se réjouit de cette nouvelle communion entre descendants du Sao, même éloignés de leurs terres ancestrales.
Nous avons décidé aujourd'hui de célébrer nos anciens ici à Yaoundé. Quand on parle de Kotoko, il faut déjà penser au Sao. C'est grâce à eux que les parents ont pu donc bâtir cet empire Kotoko fêté aujourd'hui.
Le festival regroupe des milliers de Kotoko du Cameroun, Tchad, Nigeria et même du Ghana. Plusieurs notables de ces différents pays ont été anoblis au cours du festival. Richard Onanena, Yaoundé, RFI.
La richesse culturelle camerounaise, la richesse sportive également, avec des Camerounais qui brillent depuis quelques années en NBA, la Ligue nord-américaine de basketball, qui cette semaine délocalise 2 matchs à Paris, l'occasion pour la star française Victor Wembanyama de faire son retour dans la capitale, cette fois avec les Spurs de San Antonio, opposé aux Pacers d'Indiana d'un certain Pascal Siakam. À 30 ans, le natif de Douala fait figure de joueur très respecté dans la plus grande ligue du monde, Victor Misistrano.
Il a le potentiel pour faire grandir le basket africain en général, c'est Victor Wembanyama qui le dit.
Il joue en équipe nationale, Siakam ? Non. Comme j'ai toujours dit, si je vais jouer pour une nation, ce sera le Cameroun. Jusqu'ici, ça n'a pas pu être possible, mais bon, ouais, je suis Camerounais.
Pascal Siakam ne choisira pas un autre pays, comme Joel Embiid, champion olympique avec les États-Unis l'an dernier. Georges Eddy, voix de la NBA pour la chaîne Canal Plus Afrique, s'étonne du manque de reconnaissance accordée à Siakam par rapport à son compatriote.
On devrait parler autant de Pascal, c'est un des joueurs sous-estimés actuellement dans la NBA. Au début de sa carrière, il était quasi inconnu. C'est le génie du club de Toronto d'avoir trouvé cet oiseau rare.
L'oiseau a pris son envol pour devenir champion NBA avec Toronto en 2019 et disputer 2 fois le match des étoiles, le All-Star Game. Désormais, le Camerounais fait le bonheur des fans d'Indiana. Maillot sur le dos et gigantesque casquette des Pacers sur la tête. Jimmy est venu du Wisconsin pour assister aux 2 matchs à Paris.
Pascal est génial. Il n'est arrivé que l'an dernier, mais il a tout de suite été très constant. Il travaille dur et fait de bons matchs. C'est aussi un leader du vestiaire, donc nous sommes ravis de l'avoir.
En bon leader, Pascal Siakam a prévu de remobiliser son équipe, pas assez combative selon lui, lors de la défaite de jeudi.
San Antonio Spurs, Indiana Pacers, la revanche à partir de 17h, temps universel.